Une émission soutenue financièrement par Jean-Noël, Fabien Hobart, Christine Minetto et Johan Panier. Si vous voulez nous soutenir comme eux, n'hésitez pas à aller sur tipeee.com/eTeachers. Allez, bonne émission. eTeachers,
le podcast des profs numériques. Éducation
numérique.
Actu.
Outils. Expérimentation.
Productivité.
Interaction. Innovation.
Jeff.
Guillaume.
Seb.
Et Seb.
Eh bien, je crois que ça y est, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la nouvelle saison de eTeachers. Et je crois que c'est la numéro 5. Salut les Seb, salut Jeff. Comment allez-vous ?
Ça va. Salut, salut, salut. À fond pour cette nouvelle saison. Hein ? Saison 5, tu as raison.
On est vraiment très content parce que pour ce premier épisode de la saison 5, en plus c'est le numéro 80, voilà, magnifique, nous avons la chance d'avoir notre Seb habituel, mais aussi le retour de notre Seb un petit peu moins habituel des États-Unis qui l'année dernière avait moins pu se rendre disponible, donc on est content de l'avoir avec nous. Salut Seb, comment vas-tu ?
Ben, ça va, écoute, moi je suis surtout content d'être là. C'est vrai que l'année dernière, ben, je m'excuse, hein, mais je n'avais pas pu être trop dispo. Beaucoup de boulot et le décalage horaire, mais j'essaierai de faire mieux cette année. Je devrais me foutre un objectif chiffré. Et puis sinon, ici, ben, écoute, c'est toujours l'été, il est toujours chaud. Et on est épargné par Florence, donc... Voilà.
Ça, c'est quand même pas mal, on doit le reconnaître. Un peu chez vous, en fait, il y a deux saisons, quoi. Il y a l'hiver et l'été, finalement. Il n'y a pas d'intersaison, quoi.
Non, il y a une semaine d'automne où tu as 3 kilos de feuilles qui te tombent sur la gueule, et puis une semaine de printemps où il pleut tout le temps, et sinon, le reste, il n'y a pas trop d'intersaison.
Ça fait rêver.
Ça fait rêver. Bon, sur ces considérations...
Un sommaire, météo.
On y va. On va quand même attaquer sur cette nouvelle saison avec pas mal de choses dans cet épisode. Et vas-y, Jeff, on t'écoute.
Bon, on va essayer de faire un petit sommaire. Pas mal d'actu, en tout cas. On a actu franco-française un peu au début. Et puis, Seb aussi va nous proposer des choses sur la neuropédagogie, quelques outils. En tout cas de ma part et de Guillaume, des trucs et astuces, il n'y en a pas souvent là ce soir, on va en trouver deux. Une autre partie innovation et expérimentation sur les jeux sérieux a priori, toujours une petite partie de ce qu'on est en train de faire en ce moment, en tout cas en classe ou ailleurs, et bien sûr on finira par notre petite récré habituelle, donc pour parler d'autres choses, parler un petit peu d'autres choses que de la pédagogie. Il n'y a pas que ça dans la vie.
Je serais d'avis qu'on commence par des choses qui concernent notre Seb américain parce qu'il a un petit peu moins de temps aujourd'hui peut-être, donc
tout à fait, voilà, c'est une
simplement, hein,
très, très bonne chose Guillaume.
Et ben c'est parti.
Ouais, tout à fait, donc moi chaque année j'essaie de mettre une matière ou un champ pédagogique que je vais essayer d'explorer, et cette année c'est la neuropédagogie. Alors ça fait déjà plusieurs années que je l'avais en stand-by celle-là, tout simplement parce qu'avec avec Agito on a un spécialiste qu'on doit interviewer et il faut se préparer pour ce genre d'émission, et donc jusque-là j'avais repoussé, et puis là je vais m'y mettre, et donc pour ceux qui veulent suivre mon parcours, donc je reviendrai régulièrement, hein, avec des petites découvertes. Je sais que j'aurai bientôt un cours complet à vous proposer, d'ailleurs, à explorer, mais qui fait plusieurs gigas à télécharger. Mais en tout cas, là, pour commencer, pour savoir un peu ce que c'est que la neuropédagogie, donc en gros, c'est la pédagogie avec la découverte, à la lumière des découvertes des neurosciences, il y a tout simplement La Tête au Carré, donc une excellente émission de France Inter, hein, qui a repris et qui a fait donc une émission avec deux invités sur la neuropédagogie, avec du coup un livre à découvrir qui s'appelle L'école du cerveau. Vous aurez les liens dans les notes de l'émission et puis sur la Tête au Carré tout simplement, et un site qui va intéresser les primaires. Alors le site c'est lea.fr. C'est un site, je sais pas donc quel exactement est leur modèle économique, mais en gros quand vous vous inscrivez vous recevez 10 crédits, et puis avec ces crédits vous pouvez acheter des fiches pédagogiques, des modules de formation, D'autres petites choses comme ça. Et puis après, je pense qu'il faut passer à la formule abonnement. Il y a une boutique, mais je n'ai pas vu que c'était pour acheter des crédits. Donc, c'est plus effectivement en formule d'abonnement où vous aurez des accès illimités. Il y a les tarifs à l'année, il y a les tarifs au mois. C'est 5 crédits, je crois, la formation, 2 crédits, la fiche pédagogique. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah oui, les animations pour la classe, c'est ça. Il y a des fiches pédagogiques, des modules de formation et des animations pour la classe. Alors bon, pour l'instant, j'ai regardé un petit peu. J'ai dépensé tous mes crédits déjà pour aller voir un petit peu. Alors c'est du primaire, donc moi je suis pas un spécialiste, hein, Seb, faudra que tu ailles regarder ça si ça t'intéresse, mais ça m'a pas paru très différent de ce que je pouvais trouver sur les blogs primaires. Donc peut-être qu'on fait tous de la neuropédagogie sans le savoir, mais en tout cas c'est à découvrir, et moi ça va être mon fil rouge un petit peu de formation cette année, donc la neuropédagogie. Moi je vais plus m'intéresser au niveau des langues, bien sûr, mais là pour l'instant j'ai commencé par ce podcast très généraliste et ce site lea.fr qui propose du matériel de formation et du matériel de classe. Voilà un petit peu ce qui était mes news, et bon, ça fait depuis les années 2000 que c'est en route un petit peu ce courant sur la neuropédagogie, et on va voir ce que ça donne, mais grosso modo c'est quand même une évolution du constructivisme à la Piaget, quoi.
En quelques mots, justement, pour ceux peut-être qui n'auraient aucune idée de ce que ça peut représenter, qu'est-ce que tu peux en dire? Ça doit être, j'imagine, très difficile puisque ça doit être très complexe, mais rapidement pour toi, qu'est-ce qui définit la neuropédagogie, par exemple?
Ouais, alors c'est d'autant plus difficile que je commence, tu vois.
La question est voilà, c'est parti.
Non, mais de ce que j'ai compris, si tu veux, ça reste toujours donc la construction des savoirs par l'élève, comme le constructivisme, mais avec une vision peut-être moins par stage. Piaget, c'était par étapes, on avait l'impression de grimper un escalier.
Excuse-moi, Piaget, c'était chiant, voilà.
Oui, c'est ça.
Mais, on va s'attirer.
Ça va rester la pédagogie de projet, parce que ça a l'air quand même de fonctionner, mais cette fois on compartitionne moins les élèves en développement par stage, et c'est plus justement quelque chose de plus global, qui prend en compte plus la personne dans sa totalité, et son développement n'est plus vu comme un escalier, mais plutôt comme un ensemble de connexions qui peuvent se faire, de différents champs à faire travailler pour faire évoluer l'enfant. Voilà, bon, ça c'est la
réponse dynamique, excusez-moi. Voilà.
Oui, c'est beaucoup plus dynamique, ouais, beaucoup plus dynamique. Et aussi, un truc qui va vous plaire, c'est que ça croise beaucoup plus les matières et les compétences. Ça peut vraiment être intéressant à voir.
Qu'est-ce que tu en as pensé de l'émission?
L'émission de la tête au carré, ouais. Très bien, je trouve qu'ils ont vendu le site lea.fr, j'en ai vu, et bon, après l'interlocuteur qui était l'auteur du livre, si tu veux, bon, il paraissait très, très académique, mais c'est en même temps, ça a l'air d'être un très bon vulgarisateur. Il a sorti beaucoup d'ouvrages pour débuter en tout cas dans la matière, donc avant de me faire un avis sur lui, je vais commencer par lire L'école du cerveau, et j'ai vu qu'il avait écrit aussi pas mal d'autres choses, donc je pense
sincèrement comme toi qu'il est meilleur vulgarisateur que communicant.
Ouais, peut-être, ouais.
Voilà, parce que Olivier Houdet, quand tu l'entends dire que ses premières paroles, c'est « oui, vous savez, nous, on a mis des enfants dans des IRM hein. », ah oui, tout à fait. Je me suis dit « mais là, tu vas bloquer la plupart des gens qui pourraient être intéressés vraiment par ce que tu as apporté derrière, juste parce que tu restes sur ton protocole expérimental ».
Ouais, c'est vrai qu'il dit ça, et c'est vrai qu'il dit en même temps qu'il a essayé de le faire de manière douce pour que justement les enfants aient l'impression d'être dans un environnement plus naturel que l'IRM qui est bruyant, qui est pas, il y a pas d'espace, etc. Donc il les a préparés, etc.
Il peut être très intéressant, mais là dans l'émission, j'ai pas trouvé ça passionnant. Enfin, comme toi, j'ai trouvé que le site revenait sans discontinuer, mais
ouais, un peu survendu quand même. Ouais.
Un peu beaucoup, surtout qu'on est quand même dans une mode de la communication et du partage qui s'accommode peut-être pas si bien que ça d'une idée à la Léa où il faut payer, où il faut...
Ouais, voilà. Ouais.
La plus-value de leur offre ne m'a pas sauté aux yeux. On est d'accord.
Ouais, bah il y a une, il y a une, il y a une ligne éditoriale aussi qui est intéressante. Donc,
par contre, sur la neuropédagogie appliquée aux apprentissages, il y a un super cours que j'ai suivi enfin, un superbe MOOC dans Fun.
Là, tu vois,
il était vraiment, vraiment bien. Donc, au cas où, si tu n'as pas moyen de le récupérer, je te passerai les docs.
Ouais, en général, ils rééditent pas mal leurs MOOC. Voilà. Hein,
Oui, tu mettras dans les notes de l'émission, sinon.
J'ai hâte que tu nous en dises plus, puisque là, pendant que tu parlais, en tapant en deux, trois mots-clés sur n'importe quel navigateur, le premier site neuropédagogie.com, la définition, c'est justement que c'est très difficile à définir.
Si tu veux, les neuropédagogues, ils sont pas d'accord entre eux, parce que c'est quand même, on aborde quand même une grosse machine qui est le cerveau, quoi. Donc, c'est pas facile de se dire, ah bah oui, bah c'est comme ça. Ah bah non, moi, je suis pas d'accord, parce que mes expériences, elles disent le contraire. Ah bah non, mais moi, mon protocole vous dira que ça.
Ce qui est intéressant, c'est que ça commence à apporter des pistes à la question qu'on se pose depuis toujours, qui est comment on apprend.
Tout à fait.
Et peut-être que ça fera pchit, peut-être que l'imagerie, ça nous apportera pas nos réponses, mais en tout cas, ça peut éveiller la curiosité et puis ça peut donner quand même naissance à des innovations, peut-être si les profs s'en inspirent.
Mais sincèrement, j'y reviens, mais le MOOC sur Fun, il avait une partie pratique qui était vraiment intéressante. Comment on pouvait aider les élèves avec l'idée de l'apprentissage, comment ne pas les laisser dans apprendre toi-même, et puis c'est comme ça. Non, il y avait vraiment une partie, ce n'était pas que de la théorie sur le cerveau et les apprentissages, mais réellement un truc applicable. Alors là, je pense à tous les niveaux. Par
contre. D'accord.
Ouais. Il y avait nos copains de Nipédu qui avait fait une émission qui était intéressante dessus là.
Ouais. Exact. Et puis, je vais me rapprocher du Canada où il s'y intéresse depuis assez longtemps. Je pense que l'université de Laval a fait pas mal de travaux là-dessus. Donc, quand j'aurai passé ma période d'initiation, j'irai voir un peu plus du côté des universitaires après. Ouais.
Très bien.
Au programme.
Eh bien, nickel, on continue alors.
Peut-être. J'ai un mauvais son, c'est ça, on m'a dit. Donc.
J'essaie d'être discret, mais puisque tu réponds à mon Slack, oui.
On est en live. C'est pas grave. Ça m'arrive.
Eh bien, ma foi, on va continuer, sauf que c'était malheureusement toi, je crois, encore, Jeff. Donc, pas encore, mais. T'es mieux en son ? Oui, mais t'es plus faible.
Ah, moi, je t'entends plus, là.
Oui, moi je t'entends de très loin, mais ça a l'air d'être mieux en termes de son. Ça fait moins, je parle dans mes toilettes. Je parle dans mes toilettes.
Ok, bon. Donc si vous nous rejoignez à ce moment-là...
Bon, c'est pas grave.
Ce sera coupé.
Ce que je propose, en fait, peut-être, Seb, parce que tu dois peut-être partir bientôt, là.
Il est déjà parti.
Okay. Je pense que tout simplement.
Il est déjà perdu.
Il est déjà parti. Bon, eh ben écoute, c'est pas grave. Seb, merci d'être passé.
Je regardais juste par la fenêtre. Si. C'est pour ça que je coupe la caméra des fois. Tu vois.
Est-ce que tu as le temps de continuer? Puisque tu es là, on va profiter de ta veille. Tant pis, on chamboule le sommaire, Jeff, ça pose pas de problème.
Non, bien sûr.
Voilà, si tu peux nous parler du truc et astuce que tu voulais présenter aujourd'hui.
Ouais, alors du coup, puisqu'on fait plus de partage d'écran.
Ah non, mais c'est bon, on révèle l'histoire.
Il révèle tout.
Donc, je vais vous parler d'un truc qui est quand même très très pratique, c'est les add-ons dans Google Drive. Dans chaque outils. Donc, vous avez Spreadsheet, vous avez le Google Docs, vous avez Joe, etc. Vous avez une petite option qui s'appelle module complémentaire. Vous pouvez donc rajouter des petits modules pour donner plus de fonctions à votre suite Google en ligne. Et il y a des choses pas mal. Donc, il y a des modules. Il y a des modules pour chercher des images. Par exemple, si je prends dans Google Docs, il y a des modules pour signer des documents si vous en avez besoin. Il y a des modules pour créer des nuages de mots. Il y a des modules pour traduire, etc. Donc, il y a plein de choses à chercher un petit peu là-dedans. Donc, quand vous vous rendez sur Google Docs, vous verrez sur votre barre du haut, il y a donc fichier édition, fichier insertion, format outils et modules complémentaires. Et puis, vous avez donc téléchargé des modules complémentaires. C'est un peu la foire, mais je vous ai trouvé un petit site, et du coup, je parlerai de ce site aussi, pour vous aider un petit peu à trouver des modules intéressants. Donc, par exemple, il y en a pour faire des bibliographies. Donc, une bonne bibliographie, c'est pas mal aussi. Je vous ai dit, des outils de traduction, etc. Il y a vraiment plein de choses. C'est un peu la foire, mais ça permet vraiment de faire beaucoup plus de choses avec la suite Google. Et j'ai découvert ça, en fait, grâce à un site qui est en anglais, qui s'appelle Practical EdTech, qui est un site gratuit qui est tenu par un enseignant qui milite pour des technologies gratuites pour les enseignants et qui chaque semaine présente un petit truc. Et là, le billet que j'avais choisi, c'était justement sur les modules dans Google Drive, et il en donne 10 pour commencer à découvrir ça. Le petit point noir, c'est qu'il y a beaucoup d'outils commerciaux qui sont dedans, et donc souvent vous vous retrouvez avec des services web qui sont freemium, avec des trucs payants ou qui vous laissent des watermarks, des choses un peu, c'est un peu casse-pied, c'est un peu la foire, mais je pense que Google va me faire un peu le ménage là-dedans, puisqu'il est en train de le faire dans le Web Store, justement, qui est grosso modo le store d'extension pour Google Chrome. Et ça vaut le coup d'avoir ce genre de choses. Ça peut être utile en classe ou simplement d'un point de vue personnel. Et le site Practical Tech, là aussi, vous aurez les références et je vous conseille de le suivre. Là, il y avait par exemple le dernier...
Tu l'as pas cité, c'est Richard Byrne. C'est ça.
Oui, Richard Byrne.
Je suivais son autre site, moi, je connaissais pas celui-là, qui s'appelle Free Technology for Teachers.
Exactement.
Qui était dans ma liste aussi de mes flux.
Ouais. Tu peux mettre celui-là aussi, puisque il parle de livres multimédia. Il a sorti aussi un petit manuel pour la rentrée avec tous les outils qu'il a recensés. Et à chaque fois, donc il y a un petit thème. C'est un article très court à lire. Il y a deux ou trois outils qui sont présentés. Et c'est un bon outil de veille qui est vraiment, lui, dédié tech et éducation.
Excellent.
Super.
Tu m'étonnes.
Non, très, très, très bonne recommandation. C'est vrai que j'en ai jamais parlé de ce monsieur, mais c'est vrai qu'il est très actif, en tout cas, sur son site.
Jeff, tu m'échanges un montage pour que ça arrive.
Ça arrive après, tu crois?
Oh, putain. Ouais, tu peux le faire, ça, c'est vrai, t'en es capable.
Ça fait du boulot, quoi.
Parce que c'est vrai que ça fait un sommaire un peu décousu, quoi. des outils après ça, mais c'est pas grave, c'est très bien.
Non, c'est bien, c'est cool.
Bon, écoute, on te libère si tu dois y aller, alors.
Ah, puis attends, je vais faire l'émission la prochaine fois.
Ah ouais, bien ça. Bien, vas-y.
Je vais faire un an d'émission d'un coup, comme ça, ce sera fait, quoi.
C'est pas con, ça.
On est en train de tout enregistrer, on devrait tout faire. Concept.
C'est vrai.
Merci
c'est vrai,
beaucoup, Seb, super.
Salut à tous, si j'ai pas le temps de vous dire au revoir, bonne rentrée à tous.
Très bien.
Merci.
Même chose.
Pas de souci.
On reprend au cours de notre émission.
On était où ? Je sais plus, moi.
Reviens au
début. Donc on revient aux actus.
Reste à toi, voilà. Et on revient, voilà.
Actu, oui. Donc, si vous nous avez suivis, en tout cas, vous avez dû entendre 4 émissions qui étaient en live avec Seb en direct de Ludovia. 4 émissions qu'on a fait avec nos collègues de Nipédu, qui nous ont proposé ça, en tout cas, au départ. 4 émissions un peu décousues. On était vraiment dans l'ambiance Ludovia, bien dans le live. Ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas on était assez contents de les faire et on a eu de beaux invités. Et on a eu surtout le discours du ministre sur le numérique, qui est notre ministre, qui est venu nous parler un petit peu de ce qu'il a proposé sur le numérique. Alors je vais peut-être pas reprendre tout le discours, on avait parlé un petit peu à Ludovia. Mais en gros, ça a été beaucoup sur les données des élèves. On en a beaucoup parlé sur le live, hein, où qui était vraiment une des préoccupations, en tout cas, de notre ministre, avec ce qu'on appelle un DPD, donc une personne qui va en tout cas regarder les services qu'on utilise, en tout cas dans l'éducation nationale. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, donc on a parlé de beaucoup de mots, je trouve, qui sont très à la mode en ce moment, hein, par rapport aux évaluations, que l'intelligence artificielle allait pouvoir nous aider à différencier notre pédagogie, voilà, toutes des choses comme ça. D'évaluation aussi de compétences numériques avec la plateforme PIX qui va être mise en place, en tout cas pour l'instant pour le secondaire. Enfin, parler du BIOD, j'ai envie de dire, hein, d'utiliser les appareils des élèves. Pardon, je cherchais mes mots. Les appareils des élèves. Donc, enfin, le ministre nous parle vraiment du BIOD en disant que c'est l'avenir, et il en a parlé pas que pour le lycée, hein, puisque même s'il y a une récente loi qui bannit le smartphone, en tout cas en dehors des classes, dans les classes, on va pouvoir l'utiliser à des fins pédagogiques. Voilà, beaucoup parlé aussi de toute la sphère EdTech, hein, tout ce qu'on appelle l'EdTech, toute la sphère industrielle à côté, hein, toujours en lien, avec des entreprises en lien. Il a pris comme exemple l'entreprise Quant, hein, qui a le vent en poupe en tout cas en ce moment avec l'éducation nationale. Voilà, beaucoup de choses de numérique sur des applis, sur les fondamentaux, puisque c'est un peu c'est le dada de notre ministre, hein, les fondamentaux, les français, les maths. Donc, il y aurait même des applications développées, en tout cas, par les EdTech, par l'entreprise Tech sur les fondamentaux, en tout cas en CP, en tout cas en expérimentation en CP. Voilà, il a parlé forcément de la réforme des lycées, puisque c'est le gros morceau en ce moment en France, c'est cette réforme des lycées, où l'informatique va prendre une grande place, hein, dès la seconde, avec une option obligatoire, en tout cas d'une heure et demie en seconde pour tous les élèves. Le contenu, pour l'instant, est un peu, on ne sait pas grand-chose, mais en gros, ce sera en tout cas tout ce qui est le monde numérique, hein, et pas que le code, hein, ce sera aussi tout ce qui est éducation à l'information et tout ce que le numérique en tout cas change dans nos sociétés. Puis il nous a parlé bien sûr des options de première et terminale, des options facultatives, hein, sur le numérique qui sont mises en place. Mais il nous a parlé quand même avec tout ça plein de choses sur le numérique qui m'a fait plutôt plaisir, en tout cas qui allait dans le bon sens. Mais il nous a parlé de l'addiction des écrans. Il n'a pas pu en faire autrement. Il a mis une couche derrière sur un peu contredit tout ça, hein, tu vois. Attention à l'addiction des écrans, de ne pas être tout le temps devant les écrans. Voilà.
Non, mais je crois voilà. Pas que ce soit en contradiction dans le sens où il y a eu encore des enquêtes cet été qui sont sorties sur l'addiction aux écrans, mais le problème, c'est pas il y a l'addiction aux écrans, aux jeux, pour moi, c'est vraiment différent du pédagogique et du travail scolaire. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils vont travailler une heure par jour ou deux heures par jour à l'école avec un écran, comme certainement beaucoup d'adultes travaillent devant un écran pour leur profession au quotidien, et ça ne devient pas une addiction. L'addiction, c'est je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est pas incompatible, en fait. Je veux dire, on peut très bien pousser des usages tout en mettant en garde. En tout cas, moi, c'est aussi ce que j'essaye de faire quelque part.
Non, tout à fait. Voilà, en gros, ce qu'il a proposé, en tout cas, il a proposé qu'alors, je vais être un peu provocateur là-dessus, aux bibliothèques dans les collèges et lycées, qui vont être le centre, en tout cas, du numérique. Dans les collèges et lycées. Voilà. Amis bibliothécaires, bonsoir. Ça se reconnaîtront les profs doc, hein, puisqu'ils ont un peu hurlé là-dessus en disant que ce n'était pas une bibliothèque. Donc voilà. C'est pour ça que je suis un peu provocateur là-dessus.
Ouais.
Voilà en tout cas ce qui s'est passé sur Ludovia. En tout cas, moi je remercie en tout cas nos collègues de Nipédu, on les avait fait en direct de cette belle expérience. En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, Seb.
Alors moi, j'ai été ravi de l'expérience. Également, tous les remerciements aux deux compères, là, Régis et Fabien. Ça a été un plaisir et de les rencontrer et de travailler avec eux.
Voilà, et merci aussi à l'organisation Ludovia qui nous avait fait vraiment un très bel accueil, en tout cas sur un beau stand. Ça, c'était vraiment la partie live. Et puis le off, toutes les rencontres qu'on a fait à droite, à gauche dans Ludovia. Voilà.
Moi, je n'ai, comme vous l'avez compris, pas pu venir avec vous et j'en étais fort déçu, en tout cas de l'extérieur, parce que j'ai écouté les émissions a posteriori, puisque là où j'étais, je ne pouvais à peine regarder mes mails. Vraiment, j'ai trouvé que c'était super, en fait, déjà pour l'ambiance. On sentait que ça, voilà, c'était du boulot, que ça n'a pas été toujours facile, mais que vous avez fait le job. Et puis, je trouve que pour E-Teachers, et ça, c'est un peu de l'autocongratulation, c'est quand même pas mal de partir d'un truc qu'on a fait et qu'on fait toujours dans nos garages quand on peut et en fonction de nos envies, de ce qu'on veut, et d'arriver à pouvoir participer à un tel projet qu'est Ludovia. Donc vraiment merci encore aux collègues de Nipédu pour cette opportunité, et voilà, peut-être prochaine, et on espère en tout cas à d'autres occasions pour travailler avec eux. Voilà,
tout à fait. C'est vrai qu'il y a 5 ans on n'aurait pas pensé à ça, ouais.
Ça c'est sûr.
C'est encore à moi, ça va être assez rapide. C'est un peu une actu de notre région, hein. C'est à Lyon que ça se passe. C'est le 2 et 3 octobre à Lyon, c'est les rencontres nationales de la robotique éducative. Voilà, c'est un sujet moi qui m'intéresse fortement, où il y aura des conférences sur l'utilisation de la robotique en éducation, hein, à tout niveau, hein, puisqu'il y a des expériences dès la maternelle jusqu'au lycée, des programmations, etc. Voilà, donc pas mal de beau monde. Alors j'avais la liste, mais comme j'ai bien préparé l'émission, je ne l'ai plus, le beau monde qu'il y a dessus. Mais je crois qu'il y a notre ami Carsanti qui sera là, notre ami Carsanti du Canada, que j'aime beaucoup, qui va nous présenter ça. Donc moi, j'y serai en tout cas sur le mardi. Enfin, j'assisterai à pas mal de choses. Et donc voilà, n'hésitez pas, le 2 et 3 octobre à Lyon, hein, organisé par l'IFE de Lyon. Voilà.
Très bien. Eh bien, ma foi, on n'a plus qu'à avancer sur notre seconde partie. Des outils, voilà, des petites choses. Eh bien, je vais prendre la parole puisque voilà, ça changera un peu, si je puis dire. Un petit outil très, très rapide qui s'appelle en anglais Name Picker Ninja, le NAM Picker Ninja. Donc, c'est un énième outil de sélection des élèves à la volée. Vous savez, on a des roues, on a tout ça. Là, on le sait bien quand on veut que le hasard choisisse nos élèves. Et lui, c'est un autre système qui est assez rigolo. Donc, bon, c'est toujours le même principe. Vous ajoutez des noms et vous allez faire tourner. Alors ici, ce ne sera pas une roue, c'est une liste. Hein. Bon, il y a un petit effet visuel un peu générique avec tous les noms qui circulent assez rapidement. C'est rigolo, vous pouvez changer le fond, c'est coloré. Bon, ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qu'il y a en plus que je n'avais pas dans ce que j'utilisais, c'est que par contre, vous pouvez enlever le nom de la liste si vous ne voulez pas que la deuxième fois, ça retombe sur le même. Voilà, c'est très rapide. C'est vraiment très rapide, voilà, il y a un site, ça prend 3 secondes de copier-coller les noms, un de plus, hein, si je puis dire, mais je voulais vous le présenter, j'ai trouvé ça joli.
J'utilise beaucoup la roue de Flippity que j'avais parlé il n'y a pas longtemps, les élèves, ils adorent.
Hein. Ah oui, bah, ça marche. C'est randomized, ça, comme on dit. Voilà. Ça marche, c'est rigolo, bon voilà, là c'est un autre système.
C'est bien.
C'est joli, ça mange pas de pain, c'est assez rapide. Voilà, un tout petit outil que je voulais vous donner, namepickerninja.com. On le mettra dans les notes de l'émission et bien évidemment, c'est tout gratuit.
Voilà, moi j'ai parlé aussi d'un truc qui n'est pas très long non plus, qui s'appelle Sketch Nation. SketchNationApp.com exactement. Donc c'est une ou soit une web app, donc une application qui est dans le navigateur, soit sur iPad et Android, tablette, qui permet de faire des petits jeux vidéo, ou alors c'est des jeux un peu pré-mâchés, hein, disons, hein, c'est du style Flappy Bird, du style Mario, on saute à droite à gauche, mais où on va pouvoir tout configurer le jeu entièrement, des designs, alors on ne configure pas vraiment le code, hein, comme un jeu comme Scratch ou quoi que ce soit, mais on va pouvoir gérer toute la partie graphique, la partie difficulté, Vraiment, c'est vraiment très sympa, c'est assez facile à prendre en main. Pour l'instant, je ne sais pas quoi trop en faire avec mes élèves, mais peut-être pour des plus petits, je ne sais pas, c'est ça que je pensais. En tout cas, il y a une grosse partie création. C'est tout gratuit. Franchement, c'est tout gratuit. Donc, je vous le conseille, Skate Nation App, et vous trouvez ça sur skatenationapp.com.
C'est-à-dire qu'il y a des templates, comme on dit, des trucs tout prêts, c'est ça? Comment
c'est ça, des trucs tout prêts. Tu choisis ton type de jeu, hein, ton type de jeu style à la Mario. Et puis d'ailleurs, tu vas choisir ton personnage, tu vas choisir tes fonds, tu vas choisir ta difficulté d'obstacle, tu vas choisir ça va très très loin, hein, jusqu'aux couleurs, jusqu'aux...
Mais il n'y a aucune notion de programmation, je veux dire.
Aucune notion de programmation, on est juste sur de la création pure.
De la création pure, quoi. Ouais. Ouais, c'est pas mal, ça peut avoir quelques... Plutôt sur justement le côté artistique ou le côté voilà, choix, en fait, faire des choix et les justifier, ça peut être intéressant à utiliser.
Voilà.
Très bien.
Pourquoi pas. On a fini pour nos outils ?
Tout à fait.
Truc et astuce. Ah, c'est encore moi, non ?
Eh oui, c'est pas encore, encore moi.
Pas comme moi. Ça va être assez rapide, mais c'est vraiment très sympa. Google Forms, c'est le formulaire Google que j'utilise assez souvent et qui est assez connu, hein, pour ça, je trouve qu'il est assez puissant sur, pour faire des petits formulaires. Il existe une petite nouveauté sur Google Forms, c'est de retirer des choix possibles avec Choice Eliminator. Alors, Choice Eliminator va permettre, en fait, de... Imaginez, vous faites un sondage, vous voulez... il va falloir faire un choix de groupe, par exemple. Vous avez 5 groupes, mais il n'y a que 4 personnes par groupe. Si il choisit le groupe, par exemple, la personne choisit le groupe D, dès qu'il y a 4 personnes qui ont choisi le groupe D, eh ben, la réponse se supprime. C'est à peu près,
oui,
très clair. Ouais, c'est pas très clair. J'ai l'impression que c'est pas clair ce que j'ai raconté.
Reformule.
Voilà. pour permettre, en fait, il prenait un exemple sur le site que je vais mettre là de Thierry Vanoff, que je conseille en tout cas pour tous les fans de Google, pour permettre à des personnes de s'inscrire à un événement, par exemple une formation, pour réserver une ressource. Prenons l'exemple, lui, il prend un exemple d'une vague de formation dans l'entreprise. L'entreprise prévoit 5 dates de formation où il y a jusqu'à 10 personnes. Les 10 personnes s'inscrivent à une date, et bien au bout de cette date, la réponse s'efface. On ne retrouvera plus que les 4 réponses d'ailleurs. Voilà. Moi, je pensais que pour la formation de groupe, en fait, quand je fais des groupes avec les élèves, c'est là-dessus que je l'avais utilisé. Bon, je voulais 5 élèves par groupe, ben, ils se plaçaient, et puis on ne pouvait plus se placer dans ce groupe-là puisqu'il était plein. Voilà, voilà, c'est une petite astuce. Voilà. Ouais, c'était pas très clair, je l'avoue.
Ouais, qu'il fasse un tuto.
Ouais. Bon, vous avez compris le principe.
Tout à fait. Oui, oui, non, là, ça va quand même.
Oui, ça va, on n'est pas débiles non plus, on a compris quand
même. Merci à Thierry, à son excellent site Thierry Vanoff, voilà, sur toute la partie Google, tous les outils Google.
Très bien, merci. Bon, bah, je crois qu'on est OK pour les trucs et astuces, ça dégage ce soir, hein, ça fuse. On passe à l'innovation, l'expérimentation. Alors, c'est pas vraiment de l'innovation, de l'expérimentation, c'est un peu, on va dire. Il y a un jeu sérieux qui a été développé sur la vie privée sur Internet pour les collégiens et qui est basé en fait sur les incontournables, les incollables. Si vous vous rappelez de cela, je pense que ça existe encore de toute façon en version papier, bien sûr. C'est quand même assez vieux puisque moi-même, jeune adolescent, je me rappelle les avoir utilisés. Donc là, c'est la version entre guillemets numérique. Hein, c'est développé par la CNIL, enfin en partenariat avec la CNIL, pardon. C'est vraiment le même principe. Vous avez des questions qui s'affichent, des vrais faux, des réponses instantanées, et c'est absolument basé sur la vie privée sur Internet. La première que j'ai sous les yeux, vrai ou faux, ton numéro de téléphone est une donnée personnelle. Bien évidemment, en fonction de votre choix, vous avez des choses qui vous sont données. Là, j'ai un bravo, puisque oui, c'est bien une information personnelle, avec une petite hint en anglais, une petite explication, c'est un numéro qui permet de t'identifier, donc c'est personnel. Etc, etc. Je pense que c'est pas mal fait pour utiliser éventuellement en classe, peut-être pour dans le cadre de
c'est plus du
média, l'information.
C'est plus du quiz qu'un jeu sérieux, en fait, presque, non ?
Ouais, ils appellent ça jeu sérieux, effectivement. C'est d'ailleurs là souvent la frontière, enfin la méconnaissance de certains, de pas mal de souvent, hein, mais c'est ce qu'on disait, on disait ça dans la saison précédente, les jeux sérieux. Là maintenant, il y a les escape games, on en voit de partout, là, les trois quarts du temps quand on regarde. Ce qu'ils appellent les escape games ne sont pas des escape games, ce sont juste des jeux, enfin voilà, etc. etc. En tout cas, c'est bien fait, c'est joli, c'est facile. Je pense que c'est très bien à utiliser dans l'éducation média à l'information, voire même à la maison en autonomie en donnant le lien aux élèves. Bien évidemment, c'est gratuit. Voilà, ça a été bien pensé, c'est pas mal. Voilà, ça s'appelle, je ne vous lirai pas l'adresse, c'est trop compliqué, mais on la mettra dans les notes de l'émission. Voilà.
Okay. Impeccable. Bon, Seb, tu fais quoi en ce moment ? Hein, dis-moi.
Je sais pas. Alors, en ce moment, dans mes restes d'envie de Ludovia, là,
J'avais assisté à un Explore Camp. Alors, un Explore Camp, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, c'est-à-dire un collègue arrive et présente ce qu'il a fait en classe à une pelletée de collègues qui est en face de lui et qui, généralement, font des « Oh !» Voilà. Donc là, j'avais assisté à l'Explore Camp que donnait Mélanie Auriel, qui était sur le thème de classe coopérative et Moodle Box. Alors, c'est pas tant l'aspect classe coopérative qui m'avait intéressé, mais c'était plutôt la Moodle Box. Alors, qu'est-ce qu'une Moodle Box ? Alors, déjà, il faut savoir ce que c'est que Moodle. Alors, je ne vous demande pas à vous deux, parce que vous deux, vous savez forcément. Hein, je vais essayer de le décrire comme une plateforme d'apprentissage pré-mâché dans laquelle on va venir placer des contenus d'apprentissage sous diverses formes et de sources variées. Est-ce que j'ai bon ?
Oui.
Voilà. Pour les collègues qui aiment ça, c'est Magister, par exemple, est basé dessus. Parce que je sais que tous nos collègues vont...
Bien évidemment.
Voilà. Alors, le principe de la Moodle Box, c'est d'avoir un Moodle, mais dans une box. Et une box, qu'est-ce que c'est ? Ça va être un Raspberry Pi. Un Raspberry Pi, mais qu'est-ce donc, mon cher Jamie ? Mais c'est évident, c'est pas compliqué. C'est un micro-ordinateur de poche. Hein, ça, pour l'image, prenez une boîte d'allumettes dans laquelle on aurait mis une carte imprimée. Ça vous donne une idée assez précise que ça pourrait être un Raspberry Pi. Qui fonctionne avec un petit transfo pour l'alimentation et une carte SD pour tout ce qui est stockage de la mémoire et des programmes. Donc, on va aller télécharger l'image de la Moodle Box, on l'installe sur la carte SD, on la met dans le Raspberry Pi et ça fonctionne sans connexion Internet, presque. Ça fonctionne. Alors, en ce moment, justement, je suis en train de le mettre en place et on ne va pas se leurrer, je ne vais pas conseiller ça à mes collègues qui ne sont pas férus d'informatique, qui ne sont pas super fans de tripoter les trucs à l'intérieur et de passer un bon moment pour trouver quelques fonctionnalités. Ça a des possibilités très intéressantes. Moi, je n'avais pas accès à un site pour installer Moodle dessus, donc je me suis dit que c'était très pratique. J'ai une connexion qui est défaillante, c'est-à-dire que tous mes élèves savent comment rafraîchir une page, sans exception, parce que sinon, ils sont bloqués. Hein. Maître, ça tourne. Oui, ça tourne. Et là, la page, en fait, elle ne se charge plus. Donc, rafraîchis. Voilà. Donc, d'ailleurs, les collègues qui étaient là, qui venaient, alors, je sais qu'elles venaient d'un pays d'Asie, pas d'Asie, de Moyen-Orient, je crois, pas du Pakistan, justement, mais... Voilà, elles avaient une connexion Internet pourrie, mais pourrie de pourrie, et le principe les séduisait pas mal. Donc, c'est un monde de possibilités pour faire des parcours d'apprentissage personnalisés, pour faire une plateforme de récupération de fichiers, pour faire... En fait, les possibilités sont énormes, mais il faut quand même mettre les mains dans la bête. Contrairement à un truc comme, par exemple, chez Marc-Aurélien Chardine, vous allez avoir ENTBox. ENTBox, c'est... la même idée, mais il a rationalisé la chose et ça fonctionne dès le lancement. Là, il faut quand même mettre les mains dedans et aménager sa structure même. Donc là, en ce moment, je suis encore là-dessus. Mais comme j'ai refait mes QR cartes en nouvelle version et comme je refais ma méthode de maths, il va falloir que je trouve du temps ou que j'arrête de dormir.
Et tu penses l'utiliser quand avec les...
Alors, il faut que je l'utilise le plus vite possible parce qu'en termes de distribution de fichiers, de récupération de production, c'est mon premier objectif. D'accord, donc, okay. Je vais me fixer la période 2 pour que ce soit effectif, hein, voir au fur et à mesure si j'arrive à bien me l'approprier. Mais bon, voilà. Gros okay. Projet. Je vous en redonnerai. Ouais. Ce sera mon fil rouge de l'année, je pense. Ça fait...
Mélanie Auriel est une collègue d'anglais qu'on avait invitée à l'époque où je m'occupais de Cyberlang en 2014 et qui participe dans beaucoup de choses et qui est vraiment investie, qui a écrit aussi un bouquin que je connais bien et qui est vraiment, 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 vraiment investie là-dedans, qui était une adepte de ce qu'on appelait le app smashing justement dans les années 2000, début 2010 et qui est très, très, très active. Super.
Non, mais elle a eu une présentation qui. J'y étais en me disant, je vais aller voir ce que ça donne. Parce qu'en plus, l'intitulé était assez mal fichu parce que c'était apparemment pour du secondaire et en définitive, pas du tout. Oui. Voilà, mais on voit que c'était quelqu'un qui maîtrisait quand même pas mal la bête.
Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour cette annonce. De ce que tu fais en même temps. Jeff, tu m'as l'air, je sais pas, ça va ?
Quoi ? Pardon ?
Tu as l'air ailleurs.
Voilà. Pourquoi ? Je sais pas. Non, je vous écoute.
Très bien. Bon, bah écoute, pourquoi ? C'est moi qui suis venu alors.
T'es inquiet, c'est ça ?
Je suis inquiet, tu m'inquiètes, Jeff. Oh là là.
Ils sont mignons. Hein.
À l'écoute de ta voix, j'ai l'impression que t'en peux plus, que t'as la tête dans les toilettes, littéralement.
C'était la semaine dernière, ça, pour la petite histoire.
Ah oui, c'est vrai, pour la petite histoire. Bien.
Allez, vas-y, c'est toi.
C'est moi. J'y vais. Je vais vous parler, en fait, c'est pas grand-chose. C'est juste que, voilà, chaque début d'année, c'est le moment pour le prof de repenser un peu son organisation spatiale, tout ça. Et bon, j'ai changé un peu cette année car j'ai la chance, youhou, d'avoir des classes un petit peu moins chargées, c'est-à-dire que j'arrive à 24 élèves dans la plupart de mes classes, ce qui me permet, pour les profs de langue, en fait, de faire ce qu'on appelle un simple U. Hein. Si vous vous rappelez de vos cours de langue, vous étiez peut-être dans des U, dans des doubles U. L'année dernière, moi, j'ai testé les îlots, ça m'a plu, mais ça ne m'a pas plu. Cette année, je ne voulais plus entendre parler d'îlots. Bref, je reviens à un simple U, puisque c'est génial, donc vous imaginez un U, et j'ai beaucoup de place au milieu pour naviguer, aller voir mes élèves assez proches, être proche d'eux, parce que moi, j'aime bien être proche d'eux physiquement pour pouvoir les interroger, les faire répéter, vous voyez, et pas être coincé dans mon ordinateur. Donc, bon, bah, j'ai testé de très nombreuses souris sans fil, claviers sans fil, pour pouvoir à distance contrôler mon ordinateur également. Pour plein de raisons, ce n'était pas toujours très satisfaisant parce qu'il faut quand même regarder le vidéoprojecteur quoi qu'il arrive. Enfin, moi, je n'arrive pas à ne pas le faire sans le regarder quand on tape. Donc, j'avais forcément le dos aux élèves quand même. Enfin, voilà, c'était, enfin, dos ou pas, mais assez loin parfois aussi de l'unité centrale. Donc, la clavier et la souris ne marchaient plus parce que c'était qu'une connexion infrarouge pas terrible. Enfin, voilà. Et là, en fait, j'ai testé un truc vraiment tout bête. J'ai installé, vous savez, ces petits logiciels gratuits de gestion de prise de commande à distance.
Hein,
distance
dans, ouais.
Là, c'est tout simplement TeamViewer qui est un des plus connus, pour ne pas dire le plus connu. Donc, je l'ai installé sur mon ordinateur qui est vers l'ordinateur dans le coin de la salle, quoi, vers le tableau. Et moi, j'ai pris ma tablette et en fait, je pilote tout simplement de ma tablette mon ordinateur. Et bah, ça me change quand même pas mal les choses, puisque voilà, en anglais, en langue vivante, il faut bien imaginer que quand on fait répéter les élèves, on doit appuyer un certain nombre de fois sur des boutons stop, revenir sur des séquences, des segments qu'on a isolés. Moi, je fais ça avec Audacity. Donc, je suis quelqu'un d'assez énergique, hein, je ne vais pas dire le contraire. En classe, je bouge beaucoup et puis j'aime bien aller vers mes élèves pour physiquement, limite, leur tapoter sur la main, leur dire « you repeat now », enfin, vous voyez, vraiment bouger un peu. Et à chaque fois, quand il fallait que je refasse écouter, il fallait que je retourne vers l'ordinateur. Enfin, voilà, c'était… Là, c'est vraiment très pratique puisque voilà, c'est comme une télécommande ultra complète. Je suis avec ma tablette très près d'eux, clac, clac, j'appuie, je fais répéter, c'est super pratique. Et puis pour tout, en fait, hein, même j'utilise un logiciel de tableau blanc interactif, hein, Workspace pour ne pas le nommer, ma page blanche, elle apparaît sur ma tablette et j'écris avec mon doigt sans aucun souci et ça écrit en direct sur le tableau. Voilà, alors ça demande un petit coup de main au début, je ne vous dis pas le contraire, mais bon, de toute façon, je n'écris pas très bien en général. Ou même créer tout simplement un cadre de texte à la volée comme ça pour écrire des choses au tableau, des notes, ça marche plutôt très bien. Bien sûr, ça nécessite en classe, vous l'avez compris, d'avoir une connexion Wi-Fi, hein, puisque les deux appareils communiquent en Wi-Fi, ça c'est une évidence. Moi, j'ai recyclé une vieille borne vraiment que j'avais depuis des années et des années. Et pour l'instant, j'avoue ne voir que des avantages. En toute honnêteté, voilà, même pour retaper les traces écrites, après, je reste à côté d'eux. Et en fait, le fait, ce que je vous disais, de voir du coup le contenu de vidéoprojecteur, enfin de l'ordinateur sur mon écran, fait que je n'ai pas besoin non plus à chaque fois de regarder voir ce que j'ai écrit. Je l'ai vraiment... Et je peux aller de partout, quoi. Je peux rester au fond, derrière les élèves et plus loin. Voilà, je peux tout faire. Donc, pour l'instant, c'est pas mal. Ce système de contrôler la classe avec une tablette qui est reliée à l'ordinateur, je reconnais que ça fonctionne plutôt bien. Voilà.
Ouais, très bien. Très bien, très bien.
N'hésitez pas, ça ne coûte rien si vous avez. Hein, bon, ma tablette, c'est une vieille tablette.
Par contre, si TeamViewer, tu dépends toujours d'Internet, par contre. C'est un peu
Alors, par contre, tu dépends toujours d'Internet. Je me demande s'il n'y aurait pas des
solutions pour faire un réseau à l'heure. En local, j'avais vu passer, moi. Des trucs en local.
J'imagine que ça doit pouvoir exister. Là c'est
à chercher. Proposez-nous en tout cas dans les commentaires, tiens.
Voilà, ou même juste essayer, dites-nous ce que vous en pensez. Moi, je suis intéressé, ça se trouve dans 15 jours, ça va me gonfler pour X ou Y raison parce que voilà, mais
On a notre ami Kedem Ferré qui nous parle de remote control. Application Android, ben non, c'est un iPad qu'il a, monsieur.
Non, mais moi j'ai tout ce qu'il faut, moi si je prendrais un je prendrais une Samsung ou un truc. Je ferais, j'essaierais, il n'y a pas de problème, je m'en fous. Peu importe, en tout cas, l'essentiel, vous voyez le principe, et bah, c'est plutôt pas mal, quoi. On peut vraiment, ouais, bien sûr, les PowerPoint, tout ça, c'est, ça marche très très bien. Voilà.
Allez, ok. À moi alors.
À toi.
Moi, je vais vous parler de mon petit, bon, pas mon petit joujou, mais presque, qui s'appelle Microbit. C'est une, alors micro, deux points, bit. Voilà. Ça vous rassure ?
C'était le rire de Seb qui m'a fait rire, je tiens à le dire.
Alors, je suis fatigué, voilà.
Ouais. Donc, c'est quand j'ai parlé de joujou, c'est ça ?
Ouais, oui. Bête.
J'avais ça, j'avais mon truc en plume, et puis d'un coup, tu as des microbits, je sais pas, c'est parti.
Non, en
je sais. Oui, voilà, ok. Donc, c'est une carte en fait de programmation, comme il en existe plein, je veux dire, comme pour ceux qui connaissent, les Arduino, les Raspberry, puisque tu as parlé aussi, mais qui est tout petit, qui mesure de 4 à 5 cm en taille. Donc, c'est un micro-ordinateur, mais pas que, puisqu'il en dedans, directement, on a un petit accéléromètre, donc vous pouvez pour mettre les mouvements, un petit magnétomètre qui est un peu style de boussole numérique, du Bluetooth directement dessus, une prise USB, DDL qu'on peut allumer à droite à gauche. Et bien, non, qu'est-ce qu'on peut en faire de ça ? Qui peut être alimenté par deux petites piles en plus. En fait, on fait la même chose que sur une carte plus standard, type Arduino, de la robotique, créer des objets connectés, faire des petits jeux connectés. Tout ça, on le fait de la même façon, sauf que c'est tout petit, ça a déjà plein de capteurs de ceux que je viens de citer. Ça a été créé, en tout cas pour la petite histoire, par au Royaume-Uni par la BBC, spécialement pour l'éducation.
Ah, c'est pas mal.
Voilà. Donc vraiment, c'est un produit qui a un peu le vent en poupe en ce moment. Donc j'ai commandé ma première là qui va arriver sous peu, et je vais voir un petit peu si je peux. J'ai déjà plein d'idées, hein. J'ai plein d'idées, soit pour mes robots, soit pour autre chose. Peut-être pas remplacer à terme Arduino parce que ça vaut quand même 19€. Alors c'est le prix d'un Arduino officiel, mais des Arduino compatibles, on en a à beaucoup moins cher. Alors ce que je n'arrive pas à savoir, si c'est vraiment libre, open source, c'est la question que c'est pas très clair. Donc est-ce qu'il y aura des compatibles par la suite comme il y a eu sur des Arduino puisqu'on est sur de l'open source? Donc, il n'y a que ça qui est un peu, je ne sais pas, c'est pas clair là-dessus. Donc, voilà, c'est mon petit truc, c'est le Microbit.
Très bien.
Une petite carte sympa.
Merci pour cette information. Ça a l'air d'être sympa. Il y a quelques trucs sympas à programmer en Python, j'ai vu aussi là. Ça peut être assez
utile. On peut le programmer, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Mais on peut programmer avec un langage type Block Scratch et jusqu'à du Python. Donc, on peut l'utiliser du primaire jusqu'au lycée, voire plus même. Voilà.
Bien, bah, écoutez, je crois que la partie vraiment e-teachers se termine là-dessus et on va pouvoir parler... à la récré, passer à la partie sympa, récréation. Sur tout ce qu'on a dit, c'était vraiment très pénible. se faire plaisir avec, pour parler d'autre chose, dans ce que je suis en train de dire, on va pouvoir passer à la récréation. Je suis en train de me dire dans la tête, putain, c'est-à-dire que ce qu'on a fait avant, c'était un peu pénible.
Non, c'est parler d'autre chose.
Mais bien évidemment, on parle d'autre chose. Voilà, allez, bah vas-y. Vas-y Seb, à toi.
Alors, mes lectures de cet été, j'ai un peu récupéré, je rattrape un peu mon retard par rapport à certaines recommandations qu'on m'avait faites. Et cet été, j'ai commencé et achevé La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Alors, je ne sais pas si vous connaissez.
Pas du tout.
Alors, c'est sorti dans les années 2000. Ça raconte, on est dans un monde de fantasy, on va dire, mais sans ogre, sans rien, hein, juste... une horde, un groupe de personnes aux talents très particuliers qui a pour but d'aller voir d'où vient le vent, car dans ce monde, le vent est partout et permanent et commande à beaucoup de choses. Et en fait, on va les suivre tout au long de leur périple. Ils sont 26. Alors, le petit truc assez sympathique, c'est qu'on peut passer d'un personnage à l'autre. Donc, ils n'ont pas la même manière de s'exprimer, pas la même manière de parler. L'auteur a mis des symboles pour identifier la personne qui parle. Alors, c'est très sympathique à la base.
Bon, si comme moi, vous le lisez sur liseuse, c'est un peu chiant d'aller retrouver le symbole qui se trouve au début ou à la fin du bouquin. Mais bon, ça, c'est un détail. Si vous le lisez en bonne version papier, c'est généralement, c'est dans le rabat. Donc, voilà. Assez connu quand même comme bouquin. Je l'avais vu dans une chronique de la Brigade du Livre sur YouTube. Je vous conseille au passage. C'est une bonne... Dommage qu'il ne publie pas plus, mais c'est comme ça. L'histoire est... J'ai bien aimé, voilà. Je ne vais pas vous en dire plus, parce que plus je vous en dis, plus je vous en révèle, et plus je vous en révèle, plus le plaisir s'évanouit. Donc, c'est là-dessus que je termine et que je passe la parole à mes compères.
Waouh.
Ça, c'est dans ma liste de... Ouais, à lire, tu vois.
Ouais, allez,
Tu vois, ce genre de... Il a raison, il me connaît, hein, je ne suis pas un grand lecteur. Mais ce genre de bouquin, ça me branche bien. Ouais.
Mais ouais.
Que tout le concept des petits symboles, de la numérotation à l'envers, ou je ne sais pas quoi. Là.
Ouais. On voit, j'en ai pas parlé, bravo.
Ouais, j'allais le voir.
La numérotation à l'envers, ils l'ont viré de la version électronique.
D'accord. Ah bah oui, ce serait pas...
Une bonne raison de revenir au papier.
Mais c'est vrai, tu as raison, je ne suis pas un grand lecteur. Tu me connais.
Non, en plus, je dis ça, c'était une vanne gratuite, je reconnais.
Tu me connais.
Ouais, un petit peu, mais après, c'est pas grave. Je veux dire, en soi, il n'y a pas de problème avec ça. Et ben, je vais continuer du coup avec les lectures estivales. Voilà, on m'avait offert il y a très longtemps, pas très longtemps, mais il y a plusieurs années, puisque c'est assez vieux maintenant comme livre, enfin, 3 ou 4 ans, quelque chose qui s'appelle L'homme nu. La dictature invisible du numérique. Alors, voilà, en fait, je regarde juste la date. Ah non, 2016, je dis n'importe quoi, donc fin 2015, c'est plus récent que ça. Deux journalistes assez connus du Point qui ont enquêté, en fait, vraiment sur les big datas, comme ils appellent ça. Donc, j'aime pas bien le terme d'ailleurs, parce que big data fait référence quand même à Orwell, mais bon, bref. Donc, clairement, les GAFA, on va dire, nous, ce qu'on appelle les GAFA. Et bon, voilà, tout est dans le titre, hein, la dictature invisible du numérique, c'est clairement à charge. Et en fait, si vous voulez, c'est vraiment construit comme 1984. En gros, c'est ça le délire. C'est aujourd'hui, nous sommes tous... espionnés, nous sommes tous des dictates dirigés par la dictature numérique, et en gros, parfois quand on lit, on a l'impression de dire, bah, on est tous des cons, quoi. Bon, sur le coup, j'ai trouvé que c'était pas mal. Il y avait des trucs qui étaient pas mal, des bonnes idées, des réalités, de toute façon, d'abord, sur le fait qu'on donnait bien volontiers. Oui.
Je viens d'acheter le bouquin de Seb, c'est bon.
Tu viens d'acheter le bouquin de Seb ?
Ouais, le bouquin qui est là. Très bien.
Voilà,
la Horde du Contrevent, c'est acheté, c'est bon.
D'accord. Et pourquoi
j'étais sur une librairie en ligne, j'ai dit allez hop, j'achète.
Parce que sinon, c'était ça la faute, pardon. Putain, je comprenais pas, je pensais qu'il y avait un lien avec ce que j'étais en train de raconter.
Non, je t'écoutais pas.
J'ai acheté un livre. Très bien, ok. Bon, bah c'est bien, Jeff, bravo, bravo. Il est passé de oui-oui à des...
Bon, non, mais c'était bien ce que tu disais, quand même.
Je reprends pour les deux du fond. si vous voulez, la thèse un peu centrale du livre, c'est clairement en fait une espèce de conspiration secrète entre les grandes entreprises qui communiqueraient de toute façon aussi avec les services secrets américains, enfin voilà quoi, et qu'en gros on serait tous des espèces de vaches à donner à la solde de ces grandes entreprises, et que voilà, à partir du moment où tu utilises Waze, et ben voilà, tu acceptes, ce qui est vrai quelque part, hein, je veux dire, on sait très bien que ces données-là sont envoyées, sont revendues, tout ça. Bon, voilà, je suis toujours un peu sceptique sur ces ouvrages. Il y a de la vérité. Au début, on se dit, bah ouais, on veut mettre en danger. Et puis, on finit en se disant, waouh, mais en fait, il faudrait... ils ont peur de tout, aussi les gens. Je veux dire, on peut aussi envisager ouvrir un compte de réseau social en se disant, bah tant pis, on va vendre les informations que je mets, parce que je mets une connerie, que je partage une blague et que je partage une vidéo, parce qu'aujourd'hui, c'est souvent ça. Donc... encore une fois, on revient à la conscientisation avant tout des usages, plus importante que l'usage, je crois. Donc, il y a aussi pas mal de fantasmes. Donc, j'ai été un peu... Bon, je suis bien évidemment pas objectif par rapport à n'importe quelle personne qui serait pas dans le numérique autant que nous pouvons l'être. Mais ce côté un peu totalitariste, en gros, si vous n'agissez pas aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes des moutons, quoi. Ça m'a un petit peu... un petit peu gonflé au final. Voilà, donc un petit peu déçu.
Tu le conseilles quand même, non ?
Pardon ?
Tu le conseilles quand même ?
Je sais pas. En fait, on me l'a.
T'as du mal à. Ouais.
Au début, on me l'a vendu en me disant tiens, Alissa, tu verras vraiment, voilà où on en est aujourd'hui. Toi qui es en. C'est pas dit comme ça, hein, c'est pas toi qui es là-dedans tout le temps, mais tu me diras ce que t'en penses, quoi. Aussi par des gens qui sont déjà dans la décroissance, dans la volonté, voilà. Donc il y a déjà un parti pris de tous les côtés. Je reconnais il y a des vérités, attention, encore une fois, il y a des vérités là-dedans, mais.
C'est du mauvais côté, quoi.
C'est quand même un vrai. Voilà, exactement. C'est quand
même. Les femmes sont méchants, quoi.
Un délire un peu anti-technologique avec une espèce de théorie du complot en filigrane, quoi, qui est un peu. Voilà, où tous les grands patrons seraient de mèche. En gros, l'idée, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir politique. N'existe plus parce que de toute façon ce sont les GAFA qui gèrent le monde, que de toute façon les services de FBI sont voilà réglés, enfin, mais bon, on peut débattre là-dessus, on peut réfléchir, mais ça, c'est pas que les GAFA, je veux dire, c'est la question, elle a toujours été là. Est-ce que c'est pas les grandes entreprises aujourd'hui qui de toute façon ont presque plus de puissance que n'importe quelle politique? Ça, je veux dire, ça date pas des GAFA. Je veux dire, on n'a pas attendu cette industrie-là pour savoir que les grandes industries ont toujours eu du pouvoir politique. C'est un peu ça qui me gonflait, quoi.
On appelle alors ça après, du lobby.
Ben oui, en fait, c'est juste ça. C'est quelque part, c'est du lobbyisme, on le sait. Et je veux dire, oui, si effectivement l'État américain confie toute sa technologie externalise ça à des entreprises privées, ce qui est certainement peut-être le cas, ben oui, il y a peut-être des questions à se poser, mais est-ce qu'il faut crier au complot systématiquement? Je ne sais pas trop. Donc, pour revenir à la question initiale, est-ce que je le conseille? En tout cas, je ne le déconseille pas. J'ai envie de dire que chacun peut lire. En plus, voilà, c'est des bouquins, ça fait même pas 200 pages, c'est écrit en Arial 14. Je suis désolé s'il y a des journalistes qui nous écrivent, mais c'est vraiment, qui nous écoutent, c'est vraiment du bouquin de journaliste d'investigation un peu rapide, quoi, comme on en voit souvent. C'est très bien écrit, on sent que c'est des gens qui ont l'habitude d'écrire avec beaucoup de références littéraires. Bon, chaque début de chapitre commence par une citation mystique, voire biblique, enfin, vous voyez, en disant, ça fait un peu... voilà, il y a des choses intéressantes à voir si chacun y trouvera peut-être son compte, mais c'est un petit peu exagéré à mon goût. Voilà.
D'accord. J'enchaîne. Ouais, allez.
Un truc gratuit. Enchaîner. Bon, par contre, est-ce que je peux te dire que ça donne pas franchement envie?
Non. Franchement, là, t'as pas donné envie de l'acheter. Hein.
Non, mais c'était le but.
Non. C'est pas senti.
Raison, le thème, c'est pour parler d'autre chose.
C'était pour parler d'autre chose, en fait, parce que voilà. Non, je suis d'accord. Après, voilà.
Tout à fait.
Voilà.
Dans le film. Mais bon, sinon, j'ai regardé La Servante écarlate sur Hulu et c'est top. Oh, c'est vraiment, vraiment top. Le livre est génial aussi. Et un autre livre que je vous recommande, c'est Le vieil homme et la guerre de John Scalzi en 6 volumes. Et c'est plutôt pas mal, puisque on sait pas quoi faire des vieux. Et ben là, la solution est simple, les vieux, vous pouvez vous engager. Dans ce cas-là, vous avez un nouveau corps tout jeune, amélioré. Et si vous survivez à la guerre dans les colonies extraplanétaires, vous pouvez garder votre corps.
Waouh, quel programme!
D'accord.
Ouais. Bah ouais, c'est surtout qu'à 75 ans, quand tu as un nouveau corps, il y a de nouvelles possibilités, etc. Et c'est vachement intéressant, c'est super bien.
D'accord.
Le vieil homme et la guerre de John Scalzi.
Tu nous mettras ça dans les notes de l'émission. Là. Bon. Allez, moi je lis pas, c'est vrai, il l'a dit, hein, mais je fais beaucoup de sport. Donc je me suis acheté pour la première fois une montre connectée sport, puisque je n'avais jamais acheté de montre connectée. J'étais toujours à courir avec mon smartphone comme un con, hein, souvent dans la poche arrière. Je trouvais toujours que j'avais l'air con. Je me suis acheté je voulais pas mettre non plus des milliers des cents. Je me suis acheté une l'Amazfit Pace Sport, en fait, qui est distribuée par la marque chinoise qui s'appelle Xiaomi, qui est normalement à 120-130 €, mais on arrive à la trouver en version anglaise, en tout cas pour bien moins cher. C'est une montre connectée comme beaucoup. Après, le design, on aime ou on n'aime pas, ça c'est une question de goût. Mais moi, ce que je voulais, c'était qu'elle gère tout ce qui est sport, qu'elle soit GPS surtout, hein, pour avoir les tracés, qu'on puisse suivre. Moi, quand je fais du sport, spécialement du vélo, J'aime bien avoir une trace que je récupère pour la suivre. Donc, ça, cette montre-là, elle l'a fait. Et puis, à côté, tu as tout l'aspect montre connectée, hein, les SMS, donc toi, tu dois connaître. Hein, depuis que tu as longtemps, tu as une montre connectée. Les SMS, voilà, les notifs, où on va gérer quels notifs on veut recevoir, etc. Je ne sais pas, après, l'analyse du sommeil. Enfin, elle fait plein de choses. Moi, c'était principalement pour le sport. Et pour l'instant, ça fait... quoi, 3 semaines que je l'ai, j'en suis plutôt assez content. Elle est en tout cas interfaçable avec la plupart des applis de sport, style Strava. Donc voilà, j'en suis plutôt content. Et pour moins de 100€, pour l'instant, elle fait bien l'affaire. Voilà, c'est la Amazfit Base Sport.
Xiaomi, c'est ça ?
C'est Xiaomi d'ailleurs. Ouais, c'est Xiaomi d'ailleurs en tout cas qui la distribue. C'est pas eux qui la fabriquent, puisque c'est une entreprise à part, mais c'est eux qui la distribuent.
Ouais. D'accord. Très bien. Et l'autonomie, voilà. Est sympa ? Ça tient le coup ?
S'il n'y a pas de GPS, en 3 jours, elle tient. Donc, voilà.
Ah ouais, ça n'a rien à voir avec la mienne, c'est clair. Hein.
Alors, dès qu'il y a du GPS, par contre, ça pompe, hein, forcément.
Mais alors, quand tu pars en sortie, tu ne prends plus ton téléphone ?
Je ne prends plus mon téléphone, ça y est. Ouais, tout à fait.
Par contre, tu ne peux pas passer d'appel avec elle ?
Non. Bon, bah, après, peut-être passer un appel. Si je me paume tout seul au milieu de la forêt, peut-être.
Non, bien sûr, mais je sais pas, ouais, quand tu fais du sport aujourd'hui, tu peux avoir besoin de ton téléphone. On sait, oui, peut-être quand tu es en groupe, ça.
C'est vrai, quand on est en VTT, on a toujours un sac à dos, mais ou en vélo de route ou à courir, je suis bien content de ne plus l'avoir.
Oui, je veux bien te croire. Et tu peux quand même mettre de la musique, synchroniser avec des écouteurs, choses comme ça.
Je peux mettre de la musique, ouais. Je l'ai pas fait parce que je ne cours jamais en musique, je déteste, mais.
Ah, d'accord. Mais... T'as un stockage quand même là-dessus ou.
Il y a il y a du stockage, mais combien, je sais plus. Tu m'en
ouais, d'accord. Mais bon, voilà, courant, c'est très bien. Tu pourrais écouter des livres, toi qui.
Détrompe-toi, je suis un adepte du livre audio, je pourrais en parler un jour pour parler d'autres choses. En voiture, particulièrement.
Moi aussi, j'aime beaucoup les livres audio, ça dépend qui les lit. Voilà. Bon.
Oui, c'est sûr que le lecteur est important. Mais même avec mes enfants, tu vois, on s'est fait 8 heures de route là pendant l'été, ben, on s'est mis un petit livre audio, quoi. Donc, c'était bien sympa, tu vois.
L'histoire de France par Alain Decaux. Chapitre 1.
Non, un bon vieux Jules Verne, si tu veux savoir.
Back to basics. Très bien, très bien, très bien.
Et ben voilà, on arrive à la fin.
Et ben oui, on commence à lire les commentaires.
Voilà. Mm-hmm. Et ben en tout cas, c'est une bonne reprise, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, très bien. Oui. Très bien, très bien.
Un peu particulière, mais bonne reprise.
Mais si on était 4 en plus, donc c'est impeccable. En tout cas, n'hésitez pas à nous retrouver sur tous les bons réseaux sociaux, style Facebook, style Twitter, notre appli Android, toujours pour ne louper aucun épisode. Vous cherchez eTeacher dans vos applis de podcast préférés. Vous nous trouvez. Des petits commentaires, ce serait assez sympa sur iTunes. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas de commentaires sur iTunes. Et si vous voulez nous soutenir, en tout cas financièrement, comme certains, vous avez sur Tipeee, vous cherchez eTeachers et vous pouvez en tout cas mettre une somme par émission. Hein, 1€, le prix au moins, comme on dit dans beaucoup de podcasts, moins cher qu'un café. Et en tout cas, ça nous aide et ça nous a même aidé puisqu'on... Grâce à ça, Seb nous a rejoint en tout cas à Ludovia et a pu faire ses lits de live grâce à Tipeee. Donc vraiment, je remercie encore les tipeurs. Et n'hésitez pas, en tout cas, si vous pensez qu'on mérite un petit euro par-ci par-là. Voilà. Et si en tout cas, si on veut vous parler directement, Seb ?
Alors, sur Twitter, @stuteur, S-T-U-T-E-U-R.
Guillaume, yes. si on veut te... Ah pardon, bon, c'est moi en premier. Allez, on change un petit peu les relais. Moi, c'est @jeff8342. Guillaume.
Et moi, c'est @willow_teach. Voilà.
Voilà, cette année, on devrait tenir les jeudis, en tout cas, les lives. Si vous retrouverez les émissions, en tout cas, je ne dis pas si ce n'est le vendredi ou le samedi, mais en tout cas, voilà, le temps que ce soit un petit peu de montage. Et on essaiera de se retrouver tous les 15 jours.
Exactement, ouais. On va essayer en tout cas. Voilà.
Bonne rentrée à tous et à bientôt.
Salut, bonne soirée. Au revoir.